Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Regardons aujourd'hui deux petites constellations, juste sous Persée. Nous allons parler du Bélier et du Triangle. Le Bélier d'abord. C'est une constellation du zodiaque. Elle est traversée par le Soleil du 19 avril au 14 mai. Ce qui veut dire qu'elle est visible plutôt le soir l'hiver ou au petit matin en été. Dans l'ordre du zodiaque, la constellation se situe entre les Poissons à l'ouest et les Taureaux à l'est. Le Bélier est l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Bien qu'elle soit ancienne, le Bélier est une toute petite constellation qui ne contient que deux étoiles visibles. Amal, qui est Alpha Arietis, et Charatan, qui est Beta Arietis. Parmi les autres étoiles du Bélier, on trouve entre autres Mésartime et Botaine. Dans la mythologie grecque, cette constellation représenterait le bélier volant Chrysomalos. Son nom vient de Chryso, l'or, et Malos, la laine. C'est donc le bélier à la toison d'or. C'est une créature fantastique, douée de paroles. Il est représenté avec des ailes et des cornes d'or. Dans l'épopée de la toison d'or, il a été envoyé par Hermès pour sauver Phrixos et Élée, deux enfants voués à la mort. Il semblerait que les Babyloniens, les Grecs, les Perses et les Égyptiens aient tous nommé cette constellation Bélier ou Agneau. Amal veut dire agneau en arabe et désigne donc la constellation entière pour les Arabes. La constellation a évolué au cours de l'histoire. La partie Est était auparavant une constellation à part entière, la constellation de la mouche boréale, jusqu'au XIXe siècle. C'est pourquoi les étoiles de l'Est du Bélier sont nommées avec des numéros et non pas avec des lettres grecques, comme par exemple 41 Arietis. En Inde, elle porte le nom traditionnel de Bharani, nommée d'après la maison astrologique hindoue. L'astronomie indienne est une des 6 disciplines auxiliaires, associées avec l'étude des Védas, les textes révélés de la tradition hindoue. Le premier texte relatant l'astronomie en Inde est le traité de l'Agada, daté de la période de l'empire Maurya, entre -322 et -180. Comme pour d'autres traditions, l'application de l'astronomie est essentiellement religieuse et serait plutôt appelée astrologie selon la détermination moderne. Néanmoins, on trouve dans le Rig Veda des informations concernant les connaissances astronomiques indiennes portant sur le mouvement des planètes, du Soleil et de la Lune. Les astronomes indiens utilisaient des modèles numériques leur permettant de décrire les irrégularités des trajectoires du Soleil et de la Lune. Au 5e siècle, les astronomes sont capables de calculer les dates des levées héliaques, des phases de la Lune, des positions des planètes ou encore de prévoir des éclipses. Revenons au Bélier. 53 Arietis est une étoile bleu-blanche, en apparence banale, de magnitude apparente 6,3, donc pas très visible, distante d'environ 750 années-lumière. C'est l'une des 3 étoiles évadées, les runaway stars comme on dit en anglais, qui se déplacent extrêmement rapidement dans l'espace. Les deux autres sont Mu Columba et AE du Cocher. Et toutes les 3 semblent s'échapper à environ 100 km par seconde du même point de la nébuleuse d'Orion. Plus précisément de Iota Orionis. Selon une théorie, ces étoiles auraient été à l'origine partie prenante d'un système multiple qui se serait désagrégé lors de l'explosion en supernova de l'un des membres, il y a à peu près 3 millions d'années, projetant les 3 autres dans des directions différentes. Regardons maintenant le triangle, juste au-dessus du Bélier. Le triangle figurait déjà dans la liste des 48 constellations répertoriées par Ptolémée dans son Almageste. L'une des rares constellations antiques avec la Balance à ne pas provenir d'un mythe. Est la seule qui soit décrite par une figure géométrique. À l'époque grecque, la constellation portait le nom de Deltoton, le delta vraisemblablement du Nil, et identifié par la lettre grecque delta. L'astronome Johannes Hevelius créa également un petit triangle, Triangulum Minus, juste à côté de celui-ci, qu'il appela logiquement le grand triangle, Triangulum Maius. Mais ils furent fondus en un seul triangle par Frédéric Argelander en 1843 lors de la publication de son Uranometria Nova. Il est situé sous la diagonale d'Andromède, entre la jambe d'Andromède et les étoiles du Bélier. Si la constellation du triangle ne contient pas d'étoiles notables, elle est néanmoins riche en objets stellaires. La constellation du triangle contient en effet la galaxie spirale M33, nommée fort justement galaxie du triangle. Il s'agit de la 3e plus grande galaxie de notre groupe local, les deux autres étant la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cataloguée pour la première fois par Charles Messier en 1764, la galaxie du Triangle avait probablement déjà été observée avant, car elle est visible à l'œil nu lorsque les conditions s'y prêtent. Son étude astronomique remonte au moins au milieu du 19e siècle, puisque William Parsons, troisième comte de Ross, avait dès 1850 suggéré que sa structure présentait des spirales. M33 est l'œil visible à l'œil nu le plus lointain, si l'on nommait M81, une galaxie située dans la Grande Ourse, qui est visible par d'excellents yeux dans des conditions exceptionnelles aussi. Autant dire que tout le monde n'a pas la possibilité de la voir. M33 est donc l'objet le plus lointain que peut voir un humain moyen. D'ailleurs, si vous vous souvenez de l'échelle de l'obscurité du ciel nocturne, M33 est un des témoins qui permet de graduer la qualité du ciel nocturne. Si on peut voir M33, alors le ciel est bien noir et peu perturbé par la pollution lumineuse. Cette constellation héberge également la nébuleuse NGC 604. Elle est située dans M33. C'est la plus grande région d'hydrogène ionisé que l'on connaisse. Elle a un diamètre de 1500 années-lumière. Le télescope Hubble nous a donné des images assez fabuleuses. Dans la constellation du Triangle, on trouve aussi un quasar, le quasar 3C48, au nord de la constellation. Il a été l'un des premiers à être découvert. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler des quasars. Les quasars sont des objets très brillants, les plus brillants de l'univers. Ces objets ont d'abord été pris pour des étoiles, quand ils ont été découverts dans les années 60. Quand les chercheurs ont commencé à les étudier de près, ils ont vu que leur spectre ne correspondait pas à ceux des étoiles connues, et ils ont conclu que leur spectre était extrêmement décalé vers le rouge. Ce décalage vers le rouge, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Plus il est grand, plus l'objet observé est loin. Et là, dans le cas des quasars, on parle de distance de plusieurs milliards d'années-lumière. Or, vu la distance, ces objets ne devraient même pas pouvoir être vus. C'est donc que leur brillance est phénoménale. Des quasars peuvent être jusqu'à 100 fois plus lumineux que toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Leur rayonnement est parfois très variable, mais grâce à ça, nous en avons appris plus sur leurs dimensions. Pour un des premiers quasars découverts, la dimension calculée était de 26 milliards de kilomètres, ce qui est de l'ordre de la taille du système solaire, donc très très petit pour un objet aussi brillant qu'un million de fois le Soleil. Alors d'où peut bien provenir une si formidable énergie ? Eh bien, le seul candidat à pouvoir réconcilier la très petite taille et la très grande énergie d'un quasar, c'est un trou noir. Plus précisément, un trou noir au centre d'une galaxie, qui tourne sur lui-même. Il attire à lui la matière, le gaz de la galaxie, en formant un disque d'accrétion. Les matières tombent sur le trou noir en spiralant, un peu comme de l'eau au fond d'un lavabo. Près du trou noir, les frottements, les cisaillements au sein de la matière portent le disque à incandescence. L'énergie ainsi obtenue par friction s'échappe de la surface du disque sous forme de rayons X et ultraviolets, à une température qui, très près du centre, dépasse les 100 000 Kelvin. Le reste de la matière continue à tomber graduellement avant de disparaître au-delà de la barrière ultime de la stabilité du trou noir. L'essentiel est là. Tout ce processus libère de l'énergie, avec un rendement au moins 10 fois supérieur à celui de la fusion nucléaire. L'intensité du rayonnement émergent peut varier dans une échelle de temps très courte. Et ça, c'est conforme à ce qui est observé. Pour certains quasars, la matière absorbée représente 1000 fois la masse du Soleil par an, soit l'équivalent de la masse de la Terre toutes les dixièmes de seconde. On a donc affaire à des objets d'une densité incroyable. On parle d'une masse de plusieurs millions de fois celle du Soleil. De plus, le mouvement du disque d'accrétion provoque un champ magnétique très important. Le long de ce champ magnétique, la matière du disque d'accrétion va être éjectée à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, en formant des jets de gaz perpendiculaires au disque d'accrétion, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'années-lumière. Alors, comment se forment les quasars ? Quel mécanisme amorce l'apparition d'étoiles massives si près du trou noir central ? Est-ce que c'est le trou noir lui-même ? Quel est l'ordre d'apparition des mécanismes ? Comment agissent-ils les uns sur les autres ? Les quasars pourraient être ni plus ni moins que des phases plus précoces de la formation des galaxies. Mais personne ne connaît encore les mécanismes qui ont donné naissance à ces objets. Lors de la formation rapide des premières étoiles des régions centrales des proto-galaxies, de nombreux trous noirs auraient pu fusionner et se transformer très vite en quasars. Mais dans ce cas, Les quasars ne seraient non pas à l'origine des galaxies, mais leurs produits spontanés. D'ailleurs, les spectres des quasars révèlent qu'ils contiennent non seulement de l'hydrogène, mais également des traces d'oxygène, de carbone et de fer, parmi d'autres éléments. Or, les astronomes s'accordent à penser que les éléments astronomiques ne peuvent être formés que dans le cœur d'étoiles vraiment massives, puis rejetés dans l'espace. De là à conclure que des étoiles ont dû apparaître avant les quasars, sinon en même temps, il n'y a qu'un pas. Les quasars sont très utiles pour scanner l'univers invisible. En effet, la plupart sont très lointains, et leur distance permet d'effectuer une véritable plongée dans le temps et dans l'espace. Les galaxies lointaines, dont le décalage vers le rouge est supérieur à 3, le permettent aussi, mais leur lumière est très étalée, moins concentrée que celle des quasars. Pour cette raison, les balises que sont des quasars agissent comme de véritables sondes et nous permettent d'avoir une idée de ce qu'il y a entre les galaxies. En effet, la lumière du quasar nous parvenant de très loin, elle a de grandes chances de rencontrer sur sa route certains nuages de gaz diffus qui parsèment l'univers. Et l'analyse spectrale de cette lumière nous révèle les empreintes laissées par la matière qu'elle a traversée tout au long de son parcours. Nous savons que l'expansion de l'univers s'est accompagnée et s'accompagne encore d'un refroidissement inéluctable. Ce refroidissement est si efficace que 380 000 années après le Big Bang initial, les noyaux atomiques les plus abondants de l'univers, l'hydrogène et l'hélium, deviennent électriquement neutres. L'univers est neutre. Commence alors une période durant laquelle les processus physiques dominants, c'est la formation progressive des structures que nous connaissons aujourd'hui. D'abord les atomes, puis les étoiles, puis les amas de galaxies, puis les galaxies et les quasars qui leur sont associés. L'effondrement gravitationnel est donc en marche. De petites structures se forment en premier, puis des structures de plus en plus grosses, par fusion successive. Cette période reste énigmatique et elle constitue un point aveugle de notre compréhension. Nous l'appelons l'âge sombre, parce qu'il n'y a aucune source de lumière qui en parvienne et qui puisse nous renseigner. Cette époque et cette tranche de l'univers recèlent pourtant les trésors d'informations sur la manière dont les premières structures apparaissent peu à peu. Les astronomes continuent leur voyage vers l'infini avec l'espoir que ces autres balises les mèneront au seuil de l'âge sombre.